13e épisode, le miroir électrique. Chapitre 1er, un départ précipité. Dans un coin du vaste hall du Gigantic Hotel à Chicago, un noir superbement galonné, qui n'était autre que M. Washington, chef des ouvreurs d'huîtres, était en grande conversation avec un autre noir, un peu moins éblouissant dans sa mise, Peter David, chauffeur et domestique de confiance du milliardaire Todd Monroe. Les deux noirs s'étaient autrefois connus en Louisiane et avaient été heureux de se retrouver. Avec une condescendance charmante, M. Washington, véritable personnage qui commandait à 10 employés et gagnait $500 par mois, expliquait à son ami les merveilles de l'immense caravansérail. Et Peter David, qui, jusqu'alors, avait plus fréquenté les rizières et les savanes que les grandes cités, l'écoutait avec une déférente admiration. Notre recette, déclara M. Washington, avec une gravité nuancée d'orgueil, atteint quotidiennement $200,000. Notre réserve de tabac renferme pour $500,000 de cigares et de cigarettes. Nous salissons par jour 6 000 draps et 15 000 serviettes de table ou de toilette. Ouf! S'écria Peter avec une admiration naïve. On doit manger beaucoup ici dans une journée. Vous allez en juger, continua le chef de l'huîtrerie, avec autant d'orgueilleuse modestie que s'il eût été lui-même le propriétaire du Gigantic. On abat pour nous, chaque jour, 40 bœufs, une 60aine d'agneaux, 50 porcs, sans compter 200 dindons, 50 douzaines de pigeons, 20 douzaines de canards, 32 poulets, 200 perdreaux. Au seul déjeuner du matin, il se consomme 12 000 petits pains, et pour $200 de lait frais. « Assez !» murmura Peter, comme écrasé sous cette avalanche de victuailles. Sans tenir compte de cette interruption, M. Washington continua inflexible. L'argenterie qui comprend plusieurs services complets en or massif est évaluée à $5,000,000. Nous achetons chaque mois pour $10,000 de vaisselle et de verrerie. Dans les 5 étages du sous-sol, nous produisons nous-mêmes l'électricité nécessaire à l'éclairage, au chauffage, à la ventilation et au blanchissage de l'hôtel. Nous fabriquons aussi la glace nécessaire aux 50 salles frigorifiques où se conservent le poisson, les légumes, les fruits et la viande. Peter David, émerveillé, ouvrait des yeux énormes, mais ne se hasardait plus à interrompre son enthousiaste cicérone. Enfin, conclut ce dernier à bout de souffle, la desserte et les ordures ménagères déposées chaque jour au 4e sous-sol, dans des caisses de nickel hermétiquement closes, sont cédées à un entrepreneur à raison de $10,000 par an. « Prodigieux !» s'écria poliment le chauffeur. Puis, changeant brusquement de ton et clinant de l'œil avec un sourire facétieux. « Quel malheur » ajouta-t-il, « que dans un établissement aussi merveilleux, il n'y ait pas moyen de se procurer une pauvre goutte de whisky. » fit M. Washington, en souriant à son tour, après avoir esquissé une sorte de gambade. « Il y aurait peut-être moyen tout de même. Venez avec moi !» Les deux noirs se glissèrent mystérieusement dans la cage d'un petit ascenseur qui conduisait au sous-sol. Ils reparurent une demi-heure plus tard, avec une mine épanouie et guillerette qu'ils n'avaient pas auparavant. « Il en est du whisky comme de toutes les bonnes choses, » déclara sentencieusement M. Washington. « L'abus en est pernicieux, mais l'usage en est excellent. »« Excellent !» répéta Peter David énergiquement. Les deux amis se trouvaient en ce moment en face du bureau de renseignement installé sous une des arcades qui font communiquer le grand hall avec la rue. Un chauffeur, vêtu d'une pelisse de renard noir et tenant une lettre à la main, était en train de parlementer avec l'employé du bureau. « Donnez votre lettre, » disait ce dernier. « Non, » répondait l'homme, « je dois la remettre en main propre. »« Alors, adressez-vous au boy de l'ascenseur, il vous conduira. Miss Elsie Godescall, c'est au 17e étage. » L'homme remercia d'un signe de tête et se dirigea vers l'élévateur. Peter David le suivit. En entendant le nom de Miss Elsie, il avait rapidement pris congé de M. Washington et s'était installé dans la cage de l'appareil en même temps que le porteur de la lettre. « C'est peut-être une lettre de M. Todd Marvel, » se disait le brave noir, « et il se peut qu'elle contienne des ordres qui me concernent. » Peter David, en cela, se trompait. Il n'était nullement question de lui dans la lettre. Quand Miss Elsie, qui se trouvait précisément en compagnie de son amie Gladys Barney dans le petit salon de thé, eut pris l'enveloppe, elle reconnut tout de suite l'écriture de l'adresse. « C'est de mon cher Todd, » s'écria-t-elle joyeusement. « Nous allons avoir des nouvelles. » « Y a-t-il une réponse ?» demanda le chauffeur, qui paraissait un serviteur bien stylé. « Je vous le dirai dans un instant, » répondit la jeune fille. « Attendez quelques minutes dans l'antichambre. » Le chauffeur quitta le petit salon et alla s'asseoir sur une banquette qu'occupait déjà Peter David. Celui-ci remarqua que son collègue inconnu avait le teint basané, les yeux très noirs et les traits d'une régularité de dessin assez rare en Amérique. Il paraissait d'ailleurs grave et taciturne. Les deux hommes échangèrent un coup d'œil défiant, mais ni l'un ni l'autre n'essayèrent de lier conversation. Pendant ce temps, Miss Elsie avait brisé le cachet et prenait impatiemment connaissance de la missive. « Les nouvelles sont-elles bonnes ?» demanda Miss Barney. « Oui, de toute façon. Tu as vraiment de la chance, regarde. Les millions de ta tante Elspeth sont retrouvés. » Elsie tendait à son amie quatre chèques signés de Jack Randall qu'elle venait d'extraire de l'enveloppe. « C'est inouï !» murmura la jeune fille. « Monsieur Todd Marvel est vraiment un homme extraordinaire. Que de reconnaissance je lui dois, et c'est grâce à toi, chère petite Elsie. » Les deux jeunes filles s'embrassèrent avec effusion. « Et comment ça s'est-il fait? Et si vite ?» demanda Gladys. « Tu sais que je suis curieuse. » « La lettre ne renferme pas beaucoup de détails, mais voici l'essentiel. Monsieur Jack Randall, qui était séquestré depuis un an, a recouvré la liberté. Harry Morland est en fuite. » « Mais ce Benazi qui dirigeait le ranch du poteau et qui, d'après ce que j'ai compris, était le geôlier de M. Randall, qu'est-il devenu ?»« En fuite, lui aussi, avec tous ses complices. Aussitôt que l'endroit où il tenait prisonnier M. Randall a été découvert, ils sont tous partis en auto pour une destination inconnue. « Mon voyage !» dit gaiement Miss Barney. « Ce n'est pas tout. Todd nous invite à venir passer 2 ou 3 jours à Harrisburg. Nous chasserons, nous monterons des chevaux à demi-sauvages, nous pêcherons des truites qui sont, paraît-il, d'une grosseur et d'une finesse sans rivale dans les petits cours d'eau de la propriété. Ce sera très amusant. Puis, M. Randall veut absolument nous voir. Bien entendu, j'accepte. Quand partons-nous? À l'instant même, si tu le veux. L'homme qui a apporté la lettre et qui est au service de M. Randall a ordre de nous emmener si nous le désirons. Nous pouvons être rendus à Harrisburg bien avant la nuit. Ai-je le temps de toucher mes chèques? Certainement. Mais pourquoi te montrer si pressé? J'ai cru si longtemps cet argent perdu que je me promets une vraie joie rien qu'à palper ces banknotes sur lesquelles je ne comptais plus. C'est un plaisir que je ne veux pas différer.
Tu es folle?
Alors, dépêche-toi de faire tes préparatifs. Ils sont tous faits. Tu me prêteras un pare-poussière, c'est tout ce que je te demande. S'il nous manque quelque chose, nous le trouverons à Harrisburg. Tu as raison, pas de bagages encombrants. De cette façon, notre voyage aura tout le charme d'une véritable escapade. Je n'emmènerai même pas Betty. Gladys battit des mains et les deux jeunes filles procédèrent en hâte à leur toilette, sans même appeler la fidèle chambermaid qui n'eut pas manqué d'insister pour suivre sa maîtresse. Elles gagnèrent l'antichambre munie d'un simple sac à main et annoncèrent au chauffeur de Jack Randall qu'elles étaient prêtes à le suivre. « Miss, me permettez-vous de vous accompagner ?» demanda Peter David, qui dissimulait à grand-peine son mécontentement. « C'est inutile, » répondit Elsie. « Mon absence ne sera pas de longue durée. Tu resteras à tenir compagnie à Betty. » Avant que Peter fût revenu de sa surprise, Elsie et Gladys avaient disparu dans la cage dorée de l'élévateur. Le noir suivit d'un regard soupçonneux son collègue inconnu, qui, toujours obséquieux et impassible, gagnait l'ascenseur réservé aux gens de service. Les deux jeunes filles le retrouvèrent à l'entrée du grand hall où il les aida respectueusement à monter dans une 60 HP aménagée avec le confort le plus recherché. La voiture démarra. « Vous passerez d'abord par la Pacific Bank !» cria Gladys dans le tuyau acoustique. « Tu tiens décidément à toucher tes chèques aujourd'hui ?»« Oui, et j'ai pour cela de sérieuses raisons. »«
Lesquelles ?»«
Je te le dirai tout à l'heure, quand j'aurai touché. » 5 minutes plus tard, Elsie et Gladys se présentaient au guichet de la Pacific Bank, où, après une assez longue attente, on leur remit une épaisse liasse de banknotes. Elles s'en trouvèrent d'abord fort embarrassées et durent se faire donner par un employé 4 fortes enveloppes doublées de toile.
« Sais-tu, dit en riant Gladys à son amie, que tu es très encombrante avec tes banknotes.
Le voilà bien, l'embarras des richesses.
Me diras-tu maintenant pourquoi tu as voulu entrer ce Hans Tenant en possession de ton argent? Tu aurais fort bien pu attendre. »
Gladys avait pris une mine sérieuse. « Tu vas me trouver bien méfiante, » expliqua-t-elle. « Mais quand j'ai vu ce chauffeur inconnu arrivant brusquement pour nous emmener, pour nous enlever presque, j'ai soupçonné quelques pièges d'un des nombreux et puissants ennemis de ton fiancé. Alors, j'ai fait ce raisonnement. Si le chèque est valable, et si la banque me paie, c'est que nous n'avons rien à craindre et que le chauffeur nous est réellement adressé par M. Todd Marvel.
Admirable logique.
Plaisante tant que tu voudras, mais à présent, je suis tranquille.
D'accord, mais maintenant il va te falloir aller déposer cet argent dans les coffres-forts du Gigantic, et nous allons perdre du temps.
Je n'en vois pas la nécessité.
Voyager avec une pareille somme? Tu n'y penses pas. C'est à mon tour de te taxer d'imprudence.
Gladys haussa les épaules en riant de bon cœur.
Je ne te savais pas si peureuse. Quel risque veux-tu que nous courions?
Nous serons arrivés dans 3 heures. Et la partie de l'Illinois et du Wyoming que nous allons traverser ne ressemble ni au Texas, ni à la Sonora. Les routes sont magnifiques, les villes très rapprochées, et il n'existe ni bandits ni coureurs de frontières.
Tu as peut-être raison, mais je t'avoue que pour mon compte, je ne suis pas si rassurée.
Gladys rit de plus belle.
Bah, fit-elle, si nous étions capturés par des bandits, nous aurions toujours de quoi payer notre rançon.
Pendant cette conversation, l'auto s'était engagée dans Michigan Avenue et filait à toute allure sous le couvert des beaux arbres plantés en bordure du lac. Elsie et Gladys prirent plaisir à contempler l'immense perspective des eaux calmes et bleues sur lesquelles évoluaient des centaines d'embarcations. Elles admirèrent les bosquets verdoyants de Lincoln Park que l'auto traversa lentement. On s'était engagé dans un faubourg populeux, hérissé d'usines colossales, coupé à chaque instant par les rails des voies de chemin de fer qu'aucune barrière ne séparait de la rue. Par 3 fois, l'auto dut stationner pendant que défilaient d'interminables trains chargés de bœufs mugissants. L'air était empuanti d'une odeur écœurante et fade qui rappelait à la fois l'étable et la boucherie, et qu'aggravaient encore des relents de pourriture et de nauséeuses fumées d'usine d'une métallique acretée. Miss Elsie dut avoir recours à son flacon de sel.
« Cela vient des abattoirs des Stockyards, » expliqua Gladys.
Heureusement, la cité du sang fut bientôt dépassée. Les hautes cheminées des usines décrurent dans l'éloignement et des prairies semées de bouquets d'arbres se déployèrent à perte de vue. L'auto glissait aisément en 4e vitesse sur une route admirablement goudronnée où les rencontres étaient rares. Le soleil brillait dans un ciel d'azur limpide. L'excursion s'annonçait sous les plus favorables auspices. Quand on eut dépassé les frontières de l'État de Wyoming, le caractère du paysage se modifia, mais n'en devint que plus pittoresque. Aux collines ombragées de chênes succédèrent de vraies montagnes dont les pentes étaient couvertes de sapins et d'où descendaient de nombreux ruisseaux d'eau vive. De temps en temps, on traversait en coup de vent un village construit en bois, abrité dans un creux verdoyant, ou tassé autour de la charpente de fer qui sert de superstructure aux puits à pétrole. Puis la région se fit plus âpre et plus sauvage. La route, moins bien entretenue, côtoyait des falaises schisteuses, serpentait au flanc de montagnes désertes ou s'insinuait dans de profonds ravins. Les deux jeunes filles étaient enthousiasmées.
« C'est une vraie Suisse américaine, » dit Elsie. « Je suis enchantée d'être venue.
Je te suis très reconnaissante de m'avoir invitée. On se croirait dans les Alpes.
Voilà un sommet tout couvert de neige. »
La voiture, d'une allure un peu ralentie, venait de pénétrer sous les voûtes d'une forêt de sapins centenaires. Les arbres étaient si élevés et si rapprochés qu'ils faisaient presque noir sous l'ombrage de leurs voûtes. De temps en temps, un renard ou un lièvre traversait la route avec la vitesse de l'éclair, et le silence de cette solitude n'était troublé que par le lointain croassement d'un corbeau. Brusquement, l'auto quitta la grande route pour s'engager dans une avenue de sapins et de bouleaux qui allait toujours en montant et à l'extrémité de laquelle les deux jeunes filles aperçurent des constructions aux toits aigus qui leur semblèrent importantes. Les pneus roulaient sans bruit sur le sol tapissé d'aiguilles de pin. L'auto, qui depuis quelque temps n'avançait plus que lentement, stoppa tout à coup en face d'une porte charretière percée dans une haute et solide muraille. Le chauffeur fit retentir sa trompe. La porte s'ouvrit pour livrer passage à la voiture, puis se referma presque aussitôt. Elsie et Gladys aperçurent une vaste cour entourée de bâtiments.
Ces demoiselles sont arrivées à destination, dit le chauffeur avec un étrange sourire.
Et respectueusement, il leur ouvrit la portière. Les deux jeunes filles descendirent, mais sans qu'elles pussent s'en expliquer la raison, elles se trouvaient en proie à une indéfinissable émotion. Une inquiétude vague s'éveillait en elle. Cette forêt sinistre, ce pays désert, était-ce bien là les environs d'Harrisburg
que Todd Marvel leur avait décrit comme une région riante et fertile. Une étrange appréhension qu'elles n'osaient se communiquer l'une à l'autre les avait envahies. La cour qu'elles traversèrent à la suite du chauffeur était encombrée de ferrailles, de vieux tonneaux. Tout sentait le désordre et l'abandon. Elsie et Gladys avaient beau se dire que le ranch du poteau était situé à une certaine distance de la ville, leurs craintes se précisaient d'instant en instant. « Nous allons voir M. Todd Marvaux ?» demanda tout à coup Elsie d'une voix anxieuse. « C'est probable, » fit l'homme avec le même singulier sourire. Il avait ouvert une porte qui donnait accès à un vestibule aux murailles nues, au fond duquel aboutissait un escalier de bois de structure massive, aux planches à peine rabotées. « Si vous voulez prendre la peine de monter, » dit l'homme, « c'est au troisième. Vous trouverez sur le palier quelqu'un qui vous renseignera. » Et sans attendre la réponse des deux jeunes filles, il disparut. Et elle l'entendit refermer soigneusement la porte à double tour derrière lui. Chapitre 2. Le pneu quadrillé. Une demi-heure s'était écoulée depuis le départ de Miss Elsie et de son amie, et Peter David était encore à la même place, affalé sur une banquette de l'antichambre. Le brave noir était à la fois furieux et inquiet. Il était très vexé dans son amour-propre de serviteur de confiance que sa jeune maîtresse n'eût pas voulu l'emmener. De plus, les allures taciturnes étant soit peu mystérieuses de l'homme à la pelisse de renard ne lui inspiraient pas confiance. M. Todd Marvel, sans nul doute, blâmerait sa fiancée de s'être aventurée ainsi à la légère. Pourtant, l'existence de la lettre était un fait rassurant. Si du moins Miss Elsie avait eu la bonne idée de téléphoner à Harrisburg avant de partir, la plus élémentaire prudence le commandait. Il se dit tout à coup que ce qu'elle n'avait pas fait, rien ne l'empêchait de le faire. Que n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Il décrocha le récepteur de l'appareil placé dans l'antichambre et demanda Harrisburg. « Harrisburg n'a pas le téléphone avec Chicago, » lui expliqua courtoisement l'employé. « La ligne est en construction, mais si vous voulez envoyer un télégramme... » De plus en plus mécontent, le noir accrocha le récepteur et, en désespoir de cause, il se disposait à aller rejoindre son ami Washington, le chef de l'huîtrerie, quand un des boys de l'étage lui remit une carte postale pour Miss Elsie. Il jeta les yeux sur la signature. C'était celle de Todd Marvel. « Lisons cela, » se dit le brave noir après avoir hésité une seconde. « En l'absence de Miss, c'est presque mon devoir. » La carte ne contenait que ces quelques lignes griffonnées en hâte. « Chère Elsie, j'ai réussi de façon très complète. Jack Randall est retrouvé et votre ami rentrera en possession de ses actions. Mais je suis obligée de demeurer encore un jour à Harrisburg. Jusqu'à mon retour, soyez très prudente, ne recevez aucune visite, sortez le moins possible, et jamais sans être accompagnée par Betty et David. J'ai des raisons de craindre qu'Harry Marlin ne s'en prenne à vous de la défaite qu'il a essuyée. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de ma recommandation. Votre très affectueux et dévoué, Todd. » Quel malheur ! Balbutia le noir avec accablement. La première lettre était fausse, c'est sûr. Voilà les deux Mrs. enlevées par des bandits. Que va me dire Monsieur Todd Marvel ? Car c'est un peu de ma faute. J'aurais dû empêcher Miss Elsie de partir. » Affolée à l'idée de la responsabilité qu'il croyait avoir encourue, Peter David courut trouver sa femme, Madame Betty, et la mit au courant. La dévouée chambermaid se montra tout aussi alarmée que son mari, auquel elle ne ménagea pas les reproches. « Tu es une négligence impardonnable, » lui dit-elle sévèrement. « Il fallait insister pour qu'on t'emmène. Il fallait au moins me prévenir. Et Miss Elsie qui ne m'a rien dit, qui est partie sans crier gare. » « Nous allons tâcher de la retrouver, » murmura piteusement l'époux, ainsi pris à partie. « Et comment ?» répliqua Madame David avec aigreur. « Elle est loin maintenant. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai épousé un homme aussi peu débrouillard, aussi incapable. » Quand la colère de la dame fut un peu calmée, les deux époux tinrent conseil. « D'abord, je t'accompagne, » déclara Betty péremptoirement. « Quand tu es seule, tu ne fais que des sottises. Il faut retrouver les deux messieurs, coûte que coûte. Commence par descendre au hall et tâche de savoir quelle direction a prise la voiture. Je te rejoins dans une minute. Surtout, n'oublie pas ton Browning. » Je vais d'abord interroger les boys de l'étage. Ils ont peut-être entendu Miss Elsie parler de l'endroit où elle allait. Les boys ne t'apprendront rien. Naturellement, Miss Elsie croit aller à Harrisburg. Mais ceux qui ont si habilement fabriqué la fausse lettre l'ont probablement emmené dans une direction tout à fait différente. »
Malgré cette objection, le noir, très têtu de son naturel, suivit sa première idée. Bien lui en prit, car le boy de l'ascenseur affirma avoir entendu Miss Gladys déclarer qu'elle se rendait à la Pacific Bank. Il y avait même eu une discussion à ce sujet entre les deux amis. Peter David, on le sait, avait successivement exercé les métiers de prospecteur, de cow-boy et même de bandit, et de cette existence aventureuse en Louisiane et dans le Colorado, il avait rapporté certains talents qui, pour n'être pas fréquemment utilisables, n'en offraient pas moins quelques avantages. À l'école de ces rastreros mexicains, capables de suivre un homme à la piste sur n'importe quel terrain, le noir avait appris à reconnaître les traces presque imperceptibles que laisse un fugitif en marchant sur un gazon épais, sur la mousse, sur le roc, ou même sur les dalles de marbre ou de granit parfaitement polies. Cette singulière faculté que les non-initiés prendraient pour de la divination, il allait essayer de la mettre à profit pour retrouver les deux messieurs. Il savait déjà que l'auto dont s'étaient servis les ravisseurs était une 60 HP, de grand luxe, dont la carrosserie était peinte en rouge cerise. Il avait le signalement du chauffeur. Enfin, il avait appris qu'en quittant le Gigantic Hotel, Miss Elsie s'était rendue à la Pacific Bank. Et c'était là qu'il fallait commencer par se rendre. Mais auparavant, le noir étudia avec une attention extraordinaire l'endroit où avait stationné l'auto rouge. Les traces, laissées par les roues, étaient encore assez nettes pour qu'on pût distinguer le quadrillage des pneus qui, d'une marque très récente, ne ressemblait à aucune autre. Ce ne fut qu'après avoir bien fixé dans sa mémoire le dessin de ce quadrillé que Peter David alla dans les remises du Gigantic Hotel chercher la voiture de Todd Marvel. Il en vérifia soigneusement le réservoir à essence, les pneus et le coffre à outils avant de mettre le moteur en marche. Il venait de prendre place sur le siège et pestait déjà contre la lenteur de Betty lorsqu'il la vit apparaître.
« Tu as été longtemps, » grommela-t-il.
« Parce que j'ai heureusement un peu plus de tête que toi. Tu avais oublié le principal. »«
Quoi donc ?
Et parbleu, ne fallait-il pas prévenir M. Todd Marvel ?»«
Oh, c'est vrai. J'y ai pensé, heureusement. Je viens de lui expédier au bureau de l'hôtel un long télégramme. »«
Tu as bien fait. »«
Tu trouves ?
Seulement, sans moi, tu oubliais la chose essentielle. » Le noir courba la tête sous ce reproche, pendant que Betty s'installait tranquillement sur les confortables coussins pneumatiques de la Rolls-Royce. À la banque, où Miss Gladys Barney était très connue, Peter David put apprendre que la jeune fille avait encaissé une somme considérable. Elle était ensuite remontée avec son amie dans une grande auto rouge qui s'était dirigée vers l'ouest de la ville. Le renseignement ne fit qu'augmenter les craintes des deux époux. Il leur paraissait clair qu'on avait attiré Miss Gladys dans un traquenard pour la voler. En face de la banque, la trace des pneus se retrouvait parfaitement visible. C'était cette trace qu'il s'agissait de suivre à travers la ville et de discerner parmi les chevaux embrouillés des empreintes laissées par les roues des véhicules de tout genre. Ce tour de force n'était pas en réalité pour Peter David aussi difficile à réaliser qu'il le paraissait de prime abord. Malgré son luxe, malgré ses maisons à 20 ou 30 étages, la ville de Chicago renferme encore beaucoup de rues, dont le sol même constitue tout le pavage. Là, les empreintes étaient très nettes. En outre, l'encombrement même des véhicules avait à plusieurs reprises forcé l'autorouge à stationner. Là encore, si peu plastique que fût le pavage, Peter David arrivait à y discerner les empreintes du fameux quadrillé. Enfin, le noir avait, dans l'écartement des roues, soigneusement mesuré par lui, un autre point de repère très précieux. En dépit de ces indices presque imperceptibles pour d'autres yeux que les siens, Peter David dut s'arrêter 20 fois pour ne pas perdre la bonne piste. Encore faillit-il la perdre à 2 reprises différentes, et dut-il revenir sur ses pas et sacrifier un temps précieux avant de la retrouver. Pourtant, il ne se décourageait pas. Il savait bien qu'à mesure qu'il s'éloignait du centre de la ville et qu'il se rapprochait des faubourgs, ses chances de succès augmentaient. Chicago est le point d'aboutissement de 20 lignes ferrées. Peter approchait de la zone où les rails des voies, brutalement jetés en travers des rues, imposent des arrêts à toute espèce de véhicule. Comme il l'avait prévu,
Il retrouva, cette fois très nettement imprimé sur le sol boueux, les empreintes laissées par le taureau rouge. Quand il eut dépassé les faubourgs, il eut la certitude que le ravisseur des deux jeunes filles n'avait pu prendre qu'une seule direction, celle de l'ouest, et que par conséquent, il s'était rendu dans l'état de Wyoming. Maintenant qu'il tenait une piste sérieuse, il allait pouvoir regagner le temps perdu. Il mit son moteur en quatrième vitesse et ne s'occupa plus de vérifier les empreintes des roues. À mesure qu'il avançait, sa tâche devenait de plus en plus facile. Les routes carrossables, très nombreuses aux approches des villes, sont rares et mal entretenues, sitôt qu'on s'en éloigne. Deux ou trois fois, à l'entrée d'un village ou d'un ranch, Peter David fit halte pour questionner les gens du pays. Leurs réponses lui prouvèrent qu'il ne s'était pas trompé. 2 heures auparavant, en effet, on avait vu passer une grande et luxueuse automobile dont la carrosserie était peinte en rouge cerise et qui renfermait 2 jeunes filles vêtues avec élégance. Malheureusement, la nuit venait à grands pas. Lorsque le noir atteignit la forêt de sapins que nous avons décrite, l'obscurité était complète et rendue encore plus épaisse par le feuillage des arbres. Force fut au noir de ralentir. Pour ne pas donner l'éveil à ceux qu'il poursuivait, il n'osait allumer les puissants phares électriques de la voiture dont l'éclat aurait immédiatement décelé sa présence. Il avait cependant bon espoir. Dans le lointain, il distinguait une faible lumière et un secret pressentiment lui disait que les 2 jeunes filles n'avaient pas dû aller plus loin. En sortant de la forêt, il se trouva dans une avenue parfaitement droite, à l'extrémité de laquelle la lumière qu'il avait entrevue lui apparut de nouveau plus distincte et plus rapprochée. Il augmenta un peu sa vitesse. Il voyait maintenant à 1/4 mile de lui se profiler de hauts bâtiments dont les fenêtres étaient vivement éclairées. Tout à coup, un choc très violent se produisit. La voiture venait de heurter une grosse corde tendue en travers de la route et avait été brutalement projetée contre un tronc d'arbre. Peter David gisait à terre le crâne fendu. Betty, presque aussi grièvement blessée, avait une épaule démise et elle s'était coupée à la joue et au front avec des éclats de verre provenant d'une des glaces brisées. Le feu avait pris au réservoir d'essence et les 2 blessés toujours évanouis couraient grand risque d'être brûlés vifs lorsque plusieurs hommes, les mêmes qui avaient tendu la corde, sortirent d'un taillis où ils s'étaient tenus cachés. « En voilà 2 qui ne nous dérangeront plus !» fit un des hommes. « Aussi, » ajouta un autre, « de quoi se mêle-t-il ? Ça leur apprendra à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Que faut-il en faire ? Ils doivent être en piteux état. » Nous allons voir cela. Le plus âgé des hommes, un maigre vieillard au teint basané, avait tiré de sa poche une lampe électrique. Il examina successivement Betty et David et s'assura qu'ils étaient encore vivants. « Ils sont blessés, » déclara-t-il, « mais pas mortellement. Il faut les transporter dans la chambre qui donne sur la cour, puis Monsieur Harry Marlin nous dira ce qu'il faut en faire. » 2 brancards furent improvisés à l'aide de branches d'arbres et les 2 blessés furent emportés dans l'intérieur du bâtiment qu'on apercevait à l'extrémité de l'avenue. Auparavant, les bandits avaient éteint le commencement d'incendie du réservoir d'essence. Ils revinrent bientôt et, non sans peine, transportèrent les débris de l'auto dans la cour intérieure. 1/4 d'heure après, il ne restait plus trace de l'accident provoqué par les bandits. Chapitre 3. Le miroir électrique. Todd Marvel avait vainement essayé de savoir ce qu'étaient devenus Benazi et ses complices. Ils avaient disparu avec une soudaineté qui prouvait que, depuis longtemps, ils avaient envisagé l'éventualité d'une fuite précipitée. L'auto ne se trouvait plus sous la remise. Très peu de temps après la délivrance de Jack Randall, la voiture avait traversé à une allure désordonnée les rues d'Harrisburg. Il est certain, dit le lendemain Todd Marvel à Floridor, que Benazi a dû gagner quelque autre propriété appartenant à Harry Marlin. Je crois que nous aurons grand peine à les retrouver. Je suis de ton avis, mais il faut cependant faire tout ce que nous pourrons pour mettre la main sur cet habile coquin, et surtout sur Harry Marlin. Il est en possession de sommes considérables, au moins d'une bonne moitié de l'immense fortune de Jack Randall. À ce propos, n'as-tu pas été surpris, comme moi, de la singulière attitude de notre client ? Oui, je crois que cette longue séquestration a quelque peu dérangé ses facultés mentales. Tu n'y es pas, murmura Todd Marvel, en hochant la tête. J'ignore pour quelle raison, mais Jack Randall a l'air de redouter ma présence. On dirait qu'il me craint. La première fois que nous nous sommes trouvés ensemble, il a manifesté une violente émotion. Il ne me quittait pas des yeux et sa physionomie exprimait un étonnement mêlé de terreur. Depuis, il semble m'éviter.
Pourquoi donc aurait-il peur de vous?
Surtout après l'immense service que vous venez de lui rendre. Précisément, c'est ce que je cherche vainement à m'expliquer. Il y a là-dessous quelques mystères. Je persiste dans ma première opinion. On ne m'ôtera pas de l'idée que sa longue séquestration lui a quelque peu dérangé la cervelle.
Ce n'est pas mon avis. Bien qu'il l'eût privé de la liberté, Harry Morland a eu pour lui certains égards. La chambre où j'ai été moi-même enfermée est confortable et même luxueuse.
Jack Randall y a constamment séjourné, sauf pendant les quelques jours où il était détenu dans la maisonnette du parc.
Pourquoi l'avait-il transporté là?
Tout simplement pour que je puisse prendre sa place dans la chambre au volet capitonné. Jack Randall a si peu l'esprit dérangé que, depuis qu'il a recouvré la liberté, il a pris les mesures les plus judicieuses et les plus énergiques pour qu'Harry Morland ne puisse rien toucher des sommes déposées dans les banques et pour qu'il soit mis en état d'arrestation s'il essaie de le faire. À la suite de cette conversation, Floridor se rendit à Harrisburg et employa une partie de la journée à envoyer dans toutes les directions le signalement exact d'Harry Morland, de Benazi et de leurs complices. Pendant ce temps, ainsi qu'il avait été convenu avec Jack Randall, Todd Marvel téléphonait au directeur des principales banques de Chicago et de New York et aux agences des grandes compagnies de navigation. Accompagné de Floridor, le détective venait de rentrer au ranch du poteau quand un des domestiques lui remit une dépêche qui venait d'arriver à son adresse. Il la décacheta d'un geste machinal, mais dès qu'il y eut jeté un coup d'œil, il changea de couleur. « Regarde !» balbutia-t-il en tendant la dépêche au Canadien. « C'est Betty qui me télégraphie. Attirée par une fausse lettre de moi, Elsie et Miss Barney ont disparu. Ce ne peut être Karen Morland qui a fait le coup. »«
C'est évident !» murmura Todd Marvel avec amertume. « Le bandit a pris sa revanche, et cela grâce à mon imprudence. J'aurais bien pu supposer que le misérable essaierait de se venger. Il m'en avait menacé, d'ailleurs. Je n'aurais pas dû laisser les deux jeunes filles seules et sans protection au Gigantic Hotel.
« Que faire ?» murmura le Canadien consterné.
« Je n'en sais rien encore. Peut-être devrions-nous retourner à Chicago. »
Cette conversation fut brusquement interrompue. Un des domestiques du ranch vint prévenir Todd Marvel qu'on l'appelait au téléphone, précisément dans la mystérieuse chambre où Jack Randall avait été prisonnier pendant plus d'une année. Le milliardaire eut tout de suite un pressentiment. « Je parierai, murmura-t-il, que c'est Harry Morland qui me fait appeler. »
Je le crois aussi.
Maintenant qu'il a des otages en son pouvoir, elle va vous dicter ses conditions.
Et le plus ennuyeux, c'est que je serai forcé de les accepter, s'écria Todd Marvel avec colère.
Tout en parlant, ils étaient montés dans l'ascenseur qui les déposa à la porte même de la chambre. Todd Marvel saisit un des récepteurs de l'appareil et Floridor s'empara de l'autre.
Allô? Allô?
Ici, Monsieur Todd Marvel.
Ici, Monsieur Harry Morland.
Je sais, dit le détective en contenant à grand-peine son indignation, que vous avez attiré dans un guet-apens Miss Elsie et Miss Barney. Je suppose que vous allez me faire connaître à quelles conditions vous allez leur rendre la liberté.
Très exact. Je vois que vous êtes déjà au courant.
Rappelez-vous ce que je vous disais hier quand je vous ai téléphoné dans cette même chambre orientale où vous étiez alors mon prisonnier. Je vous ai prévenu que si vous n'acceptiez pas du premier coup mes conditions, je me montrerai beaucoup plus exigeant une seconde fois.
« Que voulez-vous ? » demanda Todd Marvel en frémissant de colère.
« Juste le double de ce que je demandais primitivement, soit 6 millions de dollars. J'espère que la somme n'est pas excessive, étant donné l'intérêt que vous portez à mes deux charmantes prisonnières. » Todd Marvel ne répondit pas. Il était impressionné malgré lui, par le sang-froid tranquille du bandit. Celui-ci continua du même ton calme et posé.
« Vous me signerez 12 chèques au porteur, d'une valeur de chacun 500 000 $, et vous les ferez parvenir à la banque Walker à Chicago, qui se chargera de me les transmettre. Il est bien entendu que votre fiancé et son ami
et ne seront délivrées que lorsque je serai entré en possession de la somme. Enfin, toute tentative de votre part pour faire arrêter les personnes que je chargerai d'encaisser l'argent serait punie par des représailles sévères envers les deux jeunes filles. Dans une tractation de ce genre, il est important que tout soit parfaitement clair.
À quelles représailles faites-vous allusion ?
Vous devez bien le deviner. Vous agissez avec moi en ennemi. Aujourd'hui même, vous avez envoyé mon signalement dans toutes les directions. Je n'ai donc aucune raison de vous ménager. Sachez seulement que si vous refusez d'accepter ma proposition, vous mettez en péril l'existence de votre fiancé et celle de son ami.
« Je suis bien obligé d'accepter, » répliqua Tom Marvel exaspéré.
« Mais rien ne m'empêchera de vous dire que vous êtes un infâme bandit, digne du plus profond mépris. »
« Vous pourriez peut-être vous tromper, » répliqua l'anglo-indien d'une voix légèrement altérée.
« Grâce à vos milliards et à votre intelligence, vous n'avez jusqu'ici rencontré guère d'obstacles. Vous avez pris l'habitude de vous tenir vous-même en haute estime. Vous êtes encore très jeune, mais l'expérience de la vie vous apprendra que des actes qui vous paraissent infâmes ont parfois des motifs beaucoup plus nobles et beaucoup plus désintéressés que vous ne pouvez l'imaginer.
« Je ne vous comprends pas, » répliqua Todd Marvel avec surprise.
« Il est très exact que je me suis approprié la plus grande partie de la fortune de M. Jack Ranow. Aujourd'hui même, j'ai pris à Miss Gladys Barney $2 millions que j'aurais été fort embarrassée d'encaisser si elle ne s'y fût prêtée sans s'en douter. Enfin, vous-même, allez aujourd'hui ou demain, ou plus tard, verser à ma caisse une somme qui est loin d'être négligeable.
« Vous êtes un bandit de grande envergure, » interrompit le détective milliardaire, agacé par le ton de forfanterie de son interlocuteur. « Mais vous êtes tout de même un bandit. »
« Pas beaucoup plus que vous-même. Je vais plus loin. Écraser à l'aide d'un trust des concurrents désarmés et impuissants, et cela sans risque, me semble beaucoup moins noble que d'arracher audacieusement et au péril de ma vie et de ma liberté quelques millions de dollars à des gens qui, comme vous et comme Jack Randall, en possèdent beaucoup trop.
Je ne vous suivrai pas sur le terrain où vous portez la discussion. Je me contenterai de vous répondre que je ne fais, moi, partie d'aucun trust. Si j'ai agrandi ma fortune, c'est honnêtement, grâce à mon intelligence et à ma science des affaires.
Soit. Mais vous avez toujours agi dans un but égoïste. Pour votre seul avantage personnel, je puis déclarer hautement que mon but à moi est absolument désintéressé. Celui que vous croyez être l'anglo-indien Harry Morlin est le Raja Hari Singh, fils d'un souverain déposé par les Anglais. Je ne garde rien pour moi, des millions que je prends, comme j'estime avoir le droit de le faire. Tout cet argent est envoyé aux Indes, où il sert à soulager la misère de mes anciens sujets, affamés par la rapacité anglaise, ou encore à susciter ces révoltes que notre ennemi héréditaire, en dépit des plus sanglants massacres, n'a jamais pu dompter complètement. Vous me voyez maintenant sous mon vrai jour. Je n'ai plus d'ailleurs aucune raison de dissimuler.
Je suis charmé de connaître un bandit patriote et philanthrope. Cela manquait à ma collection,
répliqua Todd Marvel non sans ironie. Demain, la banque Walker sera en possession des valeurs que vous réclamez.
« Mais qui me dit qu'une fois nanti de mes banknotes, vous tiendrez votre promesse ?»«
Je vous en donne ma parole, et il faut que vous vous contentiez de cette garantie. »«
Elle n'est pas sérieuse. »«
Tant pis, je n'en ai pas d'autre à vous offrir. » Et l'Indien ajouta d'une voix menaçante.
« N'essayez pas de me tendre quelque piège. Souvenez-vous que la vie de mes deux prisonnières, comme la vie de n'importe quel anglo-saxon, n'a pas plus de valeur à mes yeux que la cendre de mon cigare ou un grain de poussière sur ma manche.
Ce sont là des menaces bien superflues.
Il y a des choses qui doivent être dites. Je suis obligé d'avouer que je n'ai pas la moindre confiance en vous, reprit Todd Marvel, incapable de se dominer plus longtemps.
Qui me dit qu'en ce moment même, les deux jeunes filles que vous avez fait enlever sont encore saines et sauves?
J'ai ma loyauté à moi,
répliqua l'hindou, blessé au vif, par le mépris non dissimulé que lui témoignait son interlocuteur. « Tenez l'engagement que vous venez de prendre, et je tiendrai le mien scrupuleusement. » Quelques heures après que je serai entré en possession des fonds, les deux Misses seront ramenées au Gigantic Hotel, sans avoir éprouvé le moindre dommage. Je puis d'ailleurs vous prouver à l'instant même qu'elles sont en parfaite santé.
« Je ne demande pas mieux. »
Regardez en face de vous, entre les deux bibliothèques. Il y a un grand rideau de velours rouge. Soulevez ce rideau. Je vois une glace, dont la bordure d'ébène est hérissée de fils électriques. Vous commencez à comprendre. Tournez la manette d'ivoire qui se trouve à gauche et en dessous de la glace. Maintenant, regardez. Des formes vagues et imprécises commençaient à s'agiter dans l'eau terne du miroir qui ne reflétait plus les objets qui l'entouraient, comme si ses profondeurs eussent été animées d'une vie mystérieuse. Todd Marvel, bien qu'il possédât lui-même à San Francisco un des merveilleux miroirs téléphotes, réalisé grâce aux découvertes du savant français Branly, ne put s'empêcher de jeter un cri de surprise. À deux pas de lui, il apercevait Elsie et Gladys. Assises l'une près de l'autre sur un sofa délabré, les deux jeunes filles paraissaient inquiètes et mortellement tristes. La pièce où elles se trouvaient était meublée avec un certain luxe, mais paraissait avoir été laissée depuis longtemps à l'abandon. Les rideaux de soie qui garnissaient une haute fenêtre étaient élimés et poussiéreux. Un vieux lit d'acajou en forme de bateau était piqué de nombreux trous de verre. Enfin, des brocs pleins d'eau, des serviettes blanches, un guéridon sur lequel se trouvaient des assiettes et des couverts, montraient qu'on avait fait en hâte quelques préparatifs pour rendre la chambre aussi confortable que possible. Tout à coup, Miss Elsie se leva et tira d'un petit sac à main une jumelle de théâtre. Puis elle ouvrit tout grande la fenêtre qui se trouvait au fond de la chambre et qui accédait à une sorte de balcon. Todd Marvel put voir qu'au-dessus de ce balcon, une tige de fer rouillé supportait un animal de bois peint en rouge qui lui parut être un chien ou un taureau. Sans doute l'enseigne d'une auberge. En effet, il put lire en caractères autrefois dorés, mais presque effacés par la pluie, les mots « At the Red Bull » au taureau rouge. Du balcon, les deux jeunes filles découvraient une immense forêt de sapins qui s'étendait jusqu'au fond de l'horizon et que barrait une route blanche que l'éloignement faisait paraître aussi étroite qu'un ruban. Armée de la jumelle, Elsie semblait regarder avec beaucoup d'intérêt quelque chose que Todd Marvel ne pouvait apercevoir. Puis Gladys regarda à son tour. Les deux jeunes filles paraissaient très émues. Le milliardaire pensa que cette émotion devait avoir une autre cause que la contemplation du coucher du soleil qui, tout là-bas, derrière les sapins, disparaissait dans un nuage couleur de sang. Très absorbées par le spectacle qui attirait leur attention, les deux jeunes filles ne virent pas entrer Harry Morlun, qui sans doute avait ouvert la porte sans faire de bruit. L'hindou eut un geste de colère en voyant les deux jeunes filles installées sur le balcon. Avec une brutalité de geste qui indigna profondément Todd Marvel, il prit Elsie par le bras et la força de rentrer dans l'intérieur de la chambre. Il en fit autant pour Gladys, puis il referma la fenêtre avec un geste menaçant. Presque aussitôt, la vision disparut. Le miroir se brouilla et bientôt ne refaita plus que les meubles de la chambre orientale. Todd Marvel et le Canadien, encore sous l'impression de la merveilleuse apparition qu'ils venaient d'avoir, demeurèrent silencieux pendant une longue minute. Puis tout à coup, Todd Marvel se leva. « Floridor, » dit-il à son ami, « il n'y a pas une minute à perdre. Tu vas mettre la plus robuste et la plus rapide des autos en état de partir. Hopkins et un de ses hommes nous accompagneront. Et nous allons ?»« D'abord à Harrisburg. Et ensuite ?»« Je n'en sais rien. Probablement rejoindre Miss Elsie. Mais nous ne savons pas où aller. » »« Ne t'inquiète pas de cela. C'est justement ce que je vais tâcher de découvrir. » Chapitre 4. L'auberge du taureau rouge. En arrivant à Harrisburg, l'auto de Todd Marvel, conduite par Floridor, avait stoppé juste en face d'un petit bâtiment carré situé sur la grande place et que les habitants de la ville appelaient orgueilleusement le musée. Ce musée ne renfermait d'ailleurs ni tableaux ni statues, mais on y admirait un bison et un ours gris empaillés, une collection très complète d'échantillons minéralogiques, des herbiers renfermant des spécimens de toutes les plantes et de tous les arbres du Wyoming, enfin des photographies de tous les sites de la région. Quoiqu'il fît déjà nuit, Todd Marvel ne se fit aucun scrupule d'aller relancer chez lui le conservateur du musée, un ancien cow-boy qui l'intéressa tout de suite à ses projets et auquel il décrivit minutieusement la grande forêt de sapins et l'auberge du Taureau Rouge. « Je sais, dit le milliardaire, que vous connaissez admirablement la région. Il faut que vous me disiez où se trouve cette auberge et cette forêt. Ce ne doit pas être loin d'ici, si j'en juge par le peu de temps qu'ont mis les bandits à transporter les deux prisonnières de Chicago jusqu'à leur repère. C'est bien volontiers que je vous aiderai, répondit le vieillard. Ici, tout le monde est indigné des agissements de ce bandit d'Harry Marlin. Laissez-moi chercher dans mes souvenirs, et je vous dirai peut-être où se trouve l'auberge du Taureau Rouge. Je puis déjà vous apprendre une chose, c'est qu'elle est certainement située dans cette partie du Wyoming que l'on appelle la réserve, et où le gouvernement a défendu d'abattre les arbres. Je ne suis pas beaucoup plus avancé. La réserve couvre un territoire très étendu. Attendez, nous allons aller au musée, examiner les albums de photographie. Ce sera bien viable si nous ne retrouvons pas l'auberge et la forêt de sapins. Le conservateur prit ses clés et conduisit Todd Marvel dans la salle du musée. Tous les objets y étaient recouverts d'une épaisse poussière qui attestait éloquemment la pénurie de visiteurs et l'abandon à peu près complet dans lequel était laissé cet édifice public. Les albums furent tirés de leur casier et au bout d'un quart d'heure de recherche, le milliardaire eut la satisfaction de découvrir une vue du bois de sapin et de l'auberge telle qu'elle lui était apparue dans le miroir électrique. Le conservateur connaissait parfaitement l'endroit. « C'est un véritable désert, expliqua-t-il. Il y a une dizaine d'années, on avait découvert de ce côté un gisement de pétrole. C'est alors que fut construite l'auberge et le grand bâtiment qui est annexé, et qui était alors habité par l'ingénieur et ses employés. La poche pétrolifère fut épuisée en 6 mois. Les mineurs s'en allèrent, l'auberge ferma ses portes, faute de clients, et la région retourna à sa solitude. L'endroit est on ne peut mieux choisi pour servir de repère à vos voleurs de grand chemin. Est-ce loin d'ici ? Demanda Todd Marvel impatiemment. À 30 000 miles, je vais vous prêter ma carte forestière. De cette façon, vous n'aurez besoin de demander aucun renseignement à personne. Cette offre fut acceptée avec empressement, et le milliardaire remonta dans l'auto où se trouvaient déjà Floridor, le vieil Hopkins et un robuste cow-boy. Pour diverses raisons, dont la principale était de ne pas perdre de temps, le milliardaire avait jugé inutile de prévenir la police. Il supposait d'ailleurs, avec assez de vraisemblance, que les complices de l'hindou ne devaient pas être nombreux. Enfin, il comptait beaucoup sur la surprise que causerait aux bandits son arrivée inattendue. L'expédition commençait sous les plus heureux auspices. La route qui part de Harrisburg avait été récemment goudronnée. Floridor, qui en tant que chauffeur était un véritable virtuose, menait la voiture d'un train d'enfer. Les 30 000 qui séparaient l'auberge du Taureau Rouge de la ville furent franchis en 4e vitesse, sans ralentissement. Les rares véhicules que l'on rencontrait se rangeaient précipitamment devant ce bolide aux phares éblouissants. On filait vertigineusement sous les arceaux de la grande forêt lorsque tout à coup, les phares s'éteignirent. On se trouva en pleine ténèbre. En même temps, la vitesse de l'auto se ralentit. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Todd Marvel. « Nous sommes arrivés. »« Déjà ? » ?»« Mais oui, vous pouvez voir d'ici les fenêtres de l'auberge presque tout éclairées. Je viens de consulter ma carte forestière. Il n'y a pas d'erreur possible. Nous sommes parvenus au but de notre voyage. » La voiture fut cachée dans un épais fourré, puis l'on t'aconseille. « Voilà ce que je propose, » dit Floridor. « Je vais aller hâtiment demander l'hospitalité à nos ennemis. » En offrant de payer, bien entendu. Nous verrons ce qu'ils feront. S'ils refusent de me recevoir, nous essaierons d'autres choses. Admettons qu'ils t'acceptent, dit Todd Marvel. Dans ce cas, c'est bien simple. Je me laisserai conduire dans la chambre qui me sera désignée, et dès que j'y aurai pénétré, je vous ferai connaître par un signal en quel endroit je me trouve. J'ai ma lampe électrique. Je l'entourerai de ma ceinture de flanelle rouge, ce qui produirait un éclairage facile à distinguer des autres lumières de la maison. Et alors? Quand vous saurez où je suis, je tâcherai que ce soit autant que possible au premier étage. Vous vous approcherez avec précaution, et quand la maison sera plongée dans le sommeil, je vous jeterai ma ceinture pour vous permettre d'escalader l'appui de la fenêtre. Je ne suis pas en état d'exécuter des acrobaties pareilles, grommela le vieil Hopkins d'un air mécontent. Alors vous resterez en observation, en bas de la fenêtre. Le plan de notre ami Floridor, dit Todd Marvel, n'est pas plus mauvais qu'un autre. Je n'y ferai qu'une seule objection. Si les bandits d'Harry Morland se jettent sur lui, dès qu'il aura franchi le seuil de la porte, comment pourrons-nous venir à son secours ? Cette éventualité n'est pas à craindre, répondit le Canadien avec un grand sang-froid. Quant à un homme qui a les poings aussi solides que moi, entre dans n'importe quel endroit avec un beau Browning à la ceinture, le premier sentiment qu'il inspire est généralement un certain respect. D'ailleurs, je connais les hindous. Ils n'aiment pas agir ouvertement. Leur esprit est tout naturellement tourné vers les choses compliquées. Je parierai tout ce qu'en voudra qu'ils me feront bon accueil, quitte à m'attaquer dans le courant de la nuit quand ils me croiront endormi. « Eh bien, soit, décida le milliardaire, agis à ta guise. D'ailleurs, nous ne serons pas loin. Si les choses ne marchaient pas comme tu l'espères, n'hésite pas à nous appeler. » Floridor se dirigea vers l'auberge, pendant que ses compagnons le suivaient de loin, en étouffant le bruit de leurs pas. D'ailleurs, le programme du Canadien se réalisa de point en point, au moins dans sa première partie. Il pénétra sans obstacle dans la salle du rez-de-chaussée, qui de ce côté du bâtiment était de plein pied avec la route. La pièce nue et vide n'était éclairée que par une lampe à pétrole qui jetait une lumière fumeuse et terne. Deux hommes, au teint basané, étaient assis près de la cheminée et se chauffaient à un feu de pommes de pin. Soit par calcul, soit par indifférence, et ils se dérangèrent à peine en voyant entrer Floridor. Le Canadien raconta qu'il s'était égaré, qu'il avait faim, qu'il était fatigué, en ajoutant qu'il paierait un prix raisonnable si l'on voulait lui accorder l'hospitalité. « Ce n'est pas ici un restaurant, » répondit un des hommes. « En guise de souper, je n'ai pas autre chose à vous offrir qu'un gobelet de whisky. Mais il y a une chambre libre au premier étage, je vais vous y conduire. »«
J'accepte. Combien prendrez-vous ?»«
Rien, » murmura l'homme qui semblait avoir ses raisons pour ne pas entrer en conversation avec cet hôte inconnu. La chambre où celui-ci fut conduit était une pièce étroite et haute, bâtie comme le restant de la maison avec des troncs d'arbres à peine équarris. Elle était meublée d'un vieux lit de bois et d'une table vermoulue, et elle devait être inhabitée depuis longtemps, à en juger par la poussière qui couvrait le sol et par les nombreuses toiles d'araignées qui se trouvaient dans les angles de la pièce. Quand son hôte se fut retiré, après lui avoir souhaité le bonsoir, Floridor l'entendit qui refermait soigneusement la porte à clé. Il n'attacha pas une grande importance à ce détail. Il était naturel que dans une contrée déserte et infestée de voleurs de grands chemins, on prit quelques précautions contre un inconnu. D'ailleurs, il se dit que la porte n'était pas assez solide pour résister à un coup d'épaule. Il en serait quitte pour l'enfoncer quand il lui plairait de sortir. Resté seul, il détacha la longue ceinture de laine rouge qu'il portait autour des reins, puis il l'accrocha devant la fenêtre. Ensuite, il alluma sa lampe électrique, comme cela avait été convenu. Auparavant, il avait eu soin de s'assurer, en se penchant en dehors de la fenêtre, que son signal ne pourrait être vu d'aucun des habitants de l'auberge, dont la façade, de ce côté, était plongée dans les ténèbres. Après avoir laissé sa lampe allumée un temps suffisant pour que sa lueur pût être aperçue par ses amis, il l'éteignit, ouvrit la fenêtre, en détacha la ceinture qu'il noua solidement par une de ses extrémités à la barre d'appui. Un certain temps s'était écoulé lorsqu'à l'extérieur, la clé grinça dans la serrure. Un homme entra. Rapidement, Floridor, ne sachant à qui il avait affaire, s'était glissé sous le lit et avait pris en main son revolver pour être prêt à tout événement. À sa grande surprise, il constata que le nouveau venu s'avançait en titubant comme s'il eût été complètement ivre et se cognait aux murailles et aux meubles dans l'obscurité. Finalement, il se hissa sur le lit avec de pénibles efforts et y demeura étendu. Le Canadien se préparait à sortir de sa cachette lorsqu'il entendit de nouveau fourrager dans la serrure, et un second inconnu se glissa dans la chambre. D'ailleurs, celui-là n'avait aucune des façons du précédent. Il s'avançait sans bruit en étouffant soigneusement le bruit de ses pas. Il s'approcha du lit, se pencha vers l'homme endormi, dont la respiration égale dénotait un profond sommeil. Et tout d'un coup, il leva sur lui un long poignard et se mit à le frapper avec rage. Le Canadien jugea qu'il était de son devoir d'intervenir. Il rampa tout doucement hors de sa cachette, puis au moment où l'assassin s'y attendait le moins, il le saisit par les pieds et le renversa. Une lutte terrible s'engagea dans les ténèbres. Floridor était de beaucoup le plus vigoureux, mais il était moins agile que son adversaire qui glissait entre ses doigts comme une couleuvre tout en le lardant de coups de couteau. Ce qui donnait à ce corps à corps en pleine ténèbre un caractère d'atrocité et d'horreur, c'est qu'aucun des deux adversaires n'avait prononcé une parole. Ils se battaient sauvagement dans le plus profond silence. Et finalement, le Canadien glissa dans une mare de sang tiède qui avait coulé du lit où reposait l'homme assassiné, et son adversaire lui mit un genou sur la poitrine. Il se débattait désespérément, mais son ennemi pesait sur lui de tout son poids et cherchait à quel endroit il le frapperait avec le khanjar à lame courbée qu'il brandissait au-dessus de lui. À ce moment, la lune se dégagea d'entre les nuages, et un des rayons vint frapper le visage de l'homme qui avait terrassé Floridor. Celui-ci reconnut Harry Morden. Le visage de l'hindou, dont les prunelles couleur d'or luisaient dans la pénombre, était contracté par une effroyable expression de haine et de mépris. Il murmura quelques mots que Floridor ne comprit pas, et il leva son arme pour le frapper. Mais avant que la lame eût le temps de s'abaisser, une poigne de fer avait saisi le bras d'Harry Morden et l'avait forcé de lâcher son khanjar qui roula à terre. C'était Todd Marvel qui, se hissant à l'aide de la ceinture de Floridor, venait de faire irruption dans la pièce. En un clin d'œil, l'hindou fut mis hors d'état de nuire. La lueur de la lampe électrique, que le milliardaire avait aussitôt allumée, éclaira une scène de carnage, montrant sur le lit le cadavre de Benazi lardé de plus de 20 coups de poignard. Comme on le sut plus tard, le misérable qui avait l'habitude de fumer de l'opium ne s'était plus souvenu dans son ivresse que la chambre du premier étage avait été donnée à Floridor. Et Harry Morden avait assassiné son complice le plus dévoué en croyant tuer le Canadien. Sans plus s'occuper de l'hindou qui avait été solidement garrotté, Todd Marvel et Floridor, qui n'étaient que légèrement blessés, fouillèrent l'auberge de la cave au grenier. Il importait de retrouver les deux jeunes filles avant que les complices d'Harry Morden n'eussent eu l'idée de se livrer à quelque violence sur leur personne. Ces craintes, heureusement, étaient vaines. Miss Elsie et Miss Gladys furent retrouvées saines et saufs dans la chambre du troisième étage où était installé le miroir électrique. On découvrit également dans une cave jonchée de paille à demi pourrie le chauffeur Peter David et la fidèle Betty, dont les blessures n'étaient heureusement pas très graves. L'auberge du Taureau Rouge, achetée par Harry Morden l'année d'auparavant, était pour ainsi dire le quartier général de ce bandit patriote. On déterra dans les caves un coffre-fort qui renfermait la plupart des sommes dérobées à M. Jack Randall, en même temps que le montant du chèque touché par Miss Gladys à la Pacific Bank et dont Harry Morden s'était emparé. Todd Marvel voulait interroger l'hindou. Mais quand il retourna dans la chambre du premier étage où on l'avait laissé, Harry Morden était mort. Son visage était livide et ses traits déformés par les affres de l'agonie. On supposa que, se voyant perdu, il avait trouvé moyen d'absorber un de ces poisons foudroyants que l'on trouve dans les Indes et qui sont encore mal connus des savants européens.